Tout commence avec la Révolution. Victor naît à Besançon, au premier étage d'une vieille maison sise 140 Grande Rue, le 7 Ventose, an 10, le 26 février 1802. Il est le fils d'un officier de la Révolution, Léopold Hugo, né à Nancy le 15 novembre 1773, engagé en 1791, se baptisant révolutionnairement Brutus Hugo, combattant en Vendée en 1793, et de Sophie Trébuchet, née à Nantes le 19 juin 1772, qui, contrairement à la légende, n'est pas encore d'opinion royaliste. Ils se rencontrent dans un salon où l'on professe des idées révolutionnaires. Quelles furent précisément les circonstances de leur idylle? Quelle attraction mutuelle les rapprocha? On ne sait trop. Muté à Paris avec son bataillon, Léopold, ou plutôt Brutus, est envoyé comme capitaine rapporteur à l'un des conseils de guerre à l'hôtel de ville. Il s'y lie d'amitié avec le Nantais Pierre Fouché, qui n'est pas encore le père d'une certaine Adèle. Puisqu'il est seul, sa maîtresse Louise Bouin l'ayant quitté, il songe au mariage, et après tout, Sophie pourrait bien convenir. Et il se marie civilement à Paris, le 15 novembre 1797. Les nouveaux mariés élisent domicile à l'hôtel de ville. Paris, la Lorraine, la Franche-Comté, les naissances, une famille se forme, mais déjà des ombres se profilent. À Paris, le couple a fait la connaissance du colonel Victor Fanot de Lahorie, qui, bien différent avec ses manières aristocratiques de Léopold, ne déplaît pas à Sophie. Il sera le parrain de Victor. Arrive le 18 Brumaire. À la fin du 1799, le directoire laisse place au consulat, ce qui achève la Révolution et conduit Brutus à reprendre son prénom de Léopold. Le 19e siècle peut advenir. En 1800, Léopold rejoint donc son régiment, sa demi-brigade, la 20e, à Besançon. Abel, né à Paris le 15 novembre 1798, Eugène à Nancy le 16 septembre 1800, le couple s'installe à Lunéville, puis à Besançon, mutation oblige, nous l'avons dit, en 1802, Victor n'est pas baptisé. Comme il le prétend, Victor procède-t-il des amours d'un homme de la Révolution et d'une Vendéenne? Tout cela relève du mythe personnel qui se construira pour s'originer dans ce commencement des temps modernes. Sur son berceau, il faut que trois faits se soient penchés. La Révolution, la contre-révolution, la figure napoléonienne, tout le siècle en devenir en somme. Promu général, Lahorie parraine Victor civilement à la mode républicaine. En 1802, victime avec sa demi-brigade de sanctions disciplinaires, Léopold doit aller à Marseille. Sophie part pour Paris afin de plaider sa cause. Elle y reste assez longuement, 8 mois, sans que l'on sache si elle noue une liaison avec Lahorie. Léopold échappe à l'envoi à Saint-Domingue et se retrouve avec ses enfants en 1803 à Bastia, puis à l'île d'Elbe. L'ombre future de Napoléon semble se profiler. Une certaine Catherine Thomas entre dans la vie de Léopold. Sophie finit par retourner au domicile conjugal Elbois, mais ne reste que 4 mois et repart pour Paris avec les enfants. À partir de cette époque, le couple parental se déchire et de ruptures en éloignement, puis en séparation, ils ne se réconcilient pas. L'Empire est proclamé, Napoléon couronné le 2 décembre 1804. Soupçonné d'avoir conspiré avec Pichegru et Moreau contre le maître du jour, mis d'office à la retraite en 1803, Lahorie se cache chez Sophie, puis mène une vie clandestine. Sacré roi d'Italie en mai 1805, Napoléon veut conquérir le royaume de Naples au bénéfice de son frère Joseph. Rappelé, Léopold devient chef de bataillon dans l'armée d'Italie. En garnison à Naples en 1806, il est promu et capture le célèbre Fra Diavolo, fait d'armes dont il se glorifie abondamment et qui lui vaut de devenir gouverneur de la province d'Avellino. Sur les instants de son mari, accompagné des enfants, Sophie le rejoint à Naples en 1808. C'est le premier voyage hors de France de Victor, âgé de 6 ans. Sophie repart avec les enfants. On quitte Naples le 22 décembre 1808. On arrive à Paris le 7 février 1809. Le jeune Victor n'aura passé que 4 mois en Italie. Mais, entre 1809 et 1811, il va vivre dans un paradis, le paradis des feuillantines. À Paris, Sophie habite d'abord dans un quartier silencieux, au 250 rue Saint-Jacques, près l'église. La maison a disparu. Puis elle découvre une dépendance, 6, 12 cul-de-sac des feuillantines, dotée d'un jardin, grand, profond, mystérieux. Les travaux d'Haussmann auront raison de ce havre de paix, dont il ne reste qu'un nom de rue et une plaque commémorative. Pour les enfants, s'ouvre le temps des rires et des jeux. Née le 28 novembre 1803, la petite Adèle Fouché y participe. Eugène et Victor rivalisent d'attention pour elle. Sous le nom de M. de Courlandais, Laori, revenu dans la vie de Sophie, se cache dans une ancienne chapelle au fond de ce jardin. On joue, mais on étudie aussi. Abel entre dans un lycée impérial, Eugène et Victor sont scolarisés dans une école primaire rue Saint-Jacques, tenue par un ancien prêtre, ou présenté comme tel, marié, M. de Larivière, qui leur évitant ainsi le collège, devient leur précepteur et leur apprend le latin. 2 ans suffisent pour que ces libres écoliers sachent traduire Tite Live et Virgile. Ils ont un excellent répétiteur qui leur fait lire Tacite, ce mystérieux résident du fond, ce parent partageant tous leurs repas de famille, un père de substitution dont ils ignorent le véritable nom. Hélas, il est arrêté par la police de Savary à la fin d'octobre 1810. En octobre 1812, dans le mouvement de sa célèbre conspiration, le général Mallet le libère pour qu'il devienne ministre de la police du nouveau gouvernement. Le complot échoue et leurs instigateurs et complices sont fusillés le 29. Laori n'aura jamais revu Sophie ni son filleul.